Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée lundi 1er mars, notamment par les audiences du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Nigeria, en Algérie et en République démocratique du Congo, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-José Moindo.
Le pape a reçu tour à tour lundi en audience privée le cardinal Mauro Piacenza, pénitencier majeur au tribunal apostolique, accompagné de Monseigneur Christophe Joseph Nickiel, régent de la pénitencerie apostolique, Monseigneur Salvatore Fisichella, président du conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, Monseigneur Luigi Bonazzi, nonce apostolique en Albanie, Monseigneur Robert Francis Prévost, évêque de Chiclayo au Pérou, Madame Enesis Vasquez Acosta, ambassadeur de la République dominicaine en visite de fin de mandat. Toujours lundi, les membres du Centre franciscain de solidarité de Florence en Italie ont été reçus par le pape. Dans son adresse à ces derniers, François leur a rappelé que depuis de nombreuses années, ils assurent un service précieux d'écoute et de proximité auprès de personnes qui se trouvent dans des conditions économiques et sociales difficiles, des familles qui doivent faire face à des difficultés de toutes sortes, des personnes âgées ou porteurs de handicap qui ont besoin de soutien et de compagnie. Le Saint-Père les invite à avancer courageusement dans leur travail tout en soulignant que lorsque nous sommes devant un pauvre, nous sommes appelés à un amour qui le fait sentir comme notre frère, notre sœur, et cela est possible grâce au Christ présent dans cette personne. Dans un entretien accordé au quotidien italien Corriere della Sera, le pape émérite Benoît XVI est revenu sur sa renonciation à la charge pétrinienne, la qualifiant de choix difficile. Une fois de plus, Benoît XVI répète ce qu'il a déjà dit plusieurs fois. C'était une décision difficile, explique le pape émérite, mais je l'ai prise en toute conscience et je crois que j'ai bien fait. Certains de mes amis, quelque peu fanatiques, sont toujours en colère. Ils ne voulaient pas accepter mon choix. Je pense aux théories complotistes qui l'ont suivi. Certains ont dit que c'était à cause du scandale Vatilix. D'autres ont dit que c'était à cause d'un complot du lobby gay. D'autres encore ont dit que c'était à cause du cas du théologien conservateur lefébriste Richard Williamson. Ils ne veulent pas croire à un choix fait consciemment, mais ma conscience est claire. Benoît XVI a également évoqué le prochain voyage du pape François en Irak. Je crois que c'est un voyage très important. Malheureusement, il tombe à un moment très difficile qui en fait aussi un voyage dangereux pour des raisons de sécurité et pour la COVID-19. Et puis, il y a la situation instable de l'Irak. J'accompagnerai François par ma prière, a-t-il également affirmé. La direction des Salésiens de Don Bosco a facilité la construction d'une église au Nigeria et la production de musique en Zambie. Dans un rapport publié le samedi dernier, la direction de cette congrégation basée à New York a fourni des fonds pour la toiture de la nouvelle église catholique Saint-Jean Bosco dans le diocèse d'Ondo au Nigeria. Les paroissiens ont collecté des fonds pendant 3 ans pour que l'église puisse atteindre le niveau de la toiture, mais leurs efforts ont été affectés par la pandémie de COVID-19 et ils n'ont plus été en mesure de soutenir la construction, affirment les responsables de la mission salésienne. Dans le cadre d'un autre partenariat en Afrique, la direction des missions salésiennes a facilité la production d'une chanson par 120 jeunes en Zambie, financée par les missions salésiennes grâce à une subvention de l'ambassade des États-Unis en Zambie. La chanson a été produite par des jeunes qui ont bénéficié du projet Amplifying the Hearts, une initiative d'identification des talents salésiens qui s'est terminée en novembre 2020. Cette production musicale a permis à des jeunes vulnérables de raconter leur histoire par le biais d'une expression créative et de célébrer la diversité et l'unité de l'expérience humaine. Dans un message aux accents graves, l'épiscopat nigérian brosse le tableau d'un pays à la dérive, entre chaos sécuritaire et velléité sécessionniste. La situation invite à un sursaut de toute la société autour d'un objectif commun, suggèrent les évêques qui rappellent également l'État central à ses devoirs. Nous sommes au bord d'un effondrement imminent, la survie même de la nation est en jeu. Les évêques nigériens ne cachent pas leur appréhension et la mise en garde est solennelle. La grave insécurité dont le Nigeria est le théâtre a donné la triste et dangereuse impression que ceux qui ont assumé le devoir et l'autorité de sécuriser la nation sont incapables ou pire encore peu désireux d'assumer les responsabilités de leurs fonctions, écrivent-ils avant d'énumérer les principaux périls qui menacent la stabilité du pays. Les évêques du Nigeria affirment leur foi dans la viabilité et l'opportunité du projet Nigeria en tant que nation prospère. Mais la construction de cette nation exige des sacrifices et une volonté de rechercher un objectif commun avec sincérité, de gérer au mieux les différences et d'en tirer une force qui soit positive et non négative, plaide encore l'épiscopat. En conclusion de leur message et avant de confier leur pays à Dieu, les évêques du Nigeria rappellent à leurs compatriotes les valeurs et principes essentiels à la pérennité du projet national, à savoir le respect mutuel et l'acceptation de nos diversités, un sens profond de la justice pour chaque personne, l'équité, la solidarité et l'intégration. Rendons-nous au Cameroun pour parler avec notre correspondante locale des initiatives de l'Association des femmes catholiques.
Elles étaient une cinquantaine au centre d'accueil Notre-Dame du Perpétuel Secours de Mbalmayo, les responsables des femmes catholiques venues des différents diocèses du Cameroun pour éplucher la vie de leur association.
Je suis Augustine Métala, chargée des technologies de l'information et de la communication au niveau de la division Mbalmayo. Alors, mes impressions ne peuvent être que très bonnes parce que c'est la première fois que j'assiste à une rencontre à un niveau aussi élevé.
Au cours de cette rencontre, la présidente nationale des femmes catholiques du Cameroun, Judith Tchato, a exposé sans complaisance les manquements observés ci et là dans la participation effective, la tenue des registres, les paiements des droits et cotisations au niveau national, la connaissance des statuts et la formation catéchétique des membres. Elle leur a rappelé que leur quête de la sainteté repose sur la fidélité aux engagements pris en tant que femme catholique ainsi que sur le choix radical pour la vérité, la prière et l'amour du prochain. L'évêque de Mbalmayo, Mgr Joseph Marine Diokala, les a remerciés d'avoir choisi le diocèse dont il a la charge pour tenir cette rencontre. Notons que le Cameroun compte plus de 18 000 membres de l'Association nationale des femmes catholiques. Le prochain congrès national se tiendra du 23 au 28 juillet 2021 dans le diocèse de Ngaoundéré. Paul Valéry Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le principal opposant au Tchad, Saleh Kebzabo, a annoncé lundi qu'il retirait sa candidature à la présidentielle du 11 avril en accusant le président sortant, Idriss Déby Itno, d'intimider ses concurrents par l'usage de la force. Saleh Kebzabo, à quatre reprises candidat malheureux contre M. Déby, a annoncé sa décision au lendemain d'une tentative d'arrestation à N'Djamena, d'un autre candidat déclaré qui s'est soldé par la mort d'au moins deux personnes à son domicile. Condamnant l'attaque militaire du domicile de M. Yaya Dillo Djerou, le député de l'opposition dénonce le climat d'insécurité qui entachera certainement la campagne électorale pour les candidats qui vont affronter celui du mouvement patriotique du salut, le parti de M. Déby. En conséquence, le parti de M. Kebzabo, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, décide de se retirer purement et simplement du processus électoral pour ne pas avoir à servir de caution à la mascarade qui se prépare sur une grande échelle, conclut le communiqué. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est devenu lundi la première personne dans le monde à recevoir une injection du vaccin contre la COVID-19. Financé par COVAX, le dispositif qui vise à permettre un accès à ces vaccins aux pays à faible revenu. Le Nigeria recevra quant à lui ce mardi près de 4 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 financé par le dispositif COVAX, destiné en particulier aux pays défavorisés, ont annoncé dimanche les autorités. Cette livraison fait du Nigeria le troisième pays d'Afrique de l'Ouest à bénéficier du dispositif COVAX après le Ghana et la Côte d'Ivoire. Au total, le Nigeria doit recevoir 16 millions de doses à travers le dispositif COVAX au cours des prochains mois. Le Nigeria veut vacciner au moins 70% des Nigérians de plus de 18 ans d'ici les deux prochaines années, mais ce chiffre paraît très ambitieux compte tenu des immenses défis sécuritaires et logistiques dans le pays. Ce pays comptait dimanche 155 417 cas de COVID-19 recensés, dont 1905 décès. Mais ces chiffres sont sous-évalués, le nombre de tests réalisés étant faible. En outre, un variant du coronavirus a été découvert ces derniers mois dans le pays, mais des recherches sont toujours en cours pour déterminer s'il est plus contagieux et mortel. Toujours à propos du Nigeria, des négociations sont en cours pour obtenir la libération de 317 adolescentes enlevées vendredi dans leur pensionnat situé dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Il s'agit de la quatrième attaque d'école en moins de 3 mois dans cette région du Nigeria où des groupes criminels appelés bandits multiplient les vols de bétail à grande échelle et pratiquent les enlèvements contre rançon depuis plus de 10 ans. Les responsables du gouvernement de Zamfara sont en contact avec les ravisseurs pour négocier la libération des otages d'une école pour jeunes filles de Jangébé depuis l'enlèvement. L'armée de la République démocratique du Congo a annoncé lundi avoir tué 16 miliciens et perdu 3 soldats en 3 jours d'offensive contre un groupe armé en Ituri dans le nord-est du pays. L'offensive des forces armées congolaises lancée vendredi a ciblé des fiefs du groupe armé Force patriotique et intégrationniste du Congo actif dans le territoire d'Irumu en Ituri. Lors de ces combats, l'armée annonce avoir neutralisé ou tué 16 éléments de ce groupe rebelle et capturé 7 autres et 2 localités de leur retranchement sont passées sous contrôle des soldats loyalistes selon un porte-parole de l'armée congolaise.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
La Tunisie a indiqué lundi avoir reçu 1000 doses de vaccins offertes par les Émirats arabes unis, ce premier alors que le pays n'a toujours pas débuté sa campagne de vaccination contre la COVID-19, contrairement à la plupart de ses voisins. Ces lots ont été mis à la disposition de la santé militaire chargée de les analyser avant de les distribuer prioritairement au personnel de santé, a indiqué la présidence de la République, évoquant un cadeau à son attention de la part des autorités émiraties. Un navire militaire américain a jeté l'ancre à Port-Soudan lundi au lendemain de l'arrivée d'une frégate russe dans ce même port stratégique soudanais de la mer Rouge où Moscou compte établir une base navale. L'arrivée du contre-torpilleur américain USS Winston Churchill à Port-Soudan intervient dans un contexte de rapprochement entre Washington et Khartoum après le retrait du Soudan de la liste américaine des États accusés de soutenir le terrorisme et la chute de l'ex-autocrate Omar el-Béchir en avril 2019. Ce navire est le second à s'arrêter au Soudan cette semaine, signe du soutien américain à la transition démocratique soudanaise, selon Brian Shukan, le chargé d'affaires des États-Unis au Soudan. À peine arrivée, la nouvelle chef de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a appelé lundi à débloquer les négociations sur les aides à la pêche. Au premier jour d'un mandat historique à la tête d'une institution en crise en pleine pandémie, j'arrive dans une des plus importantes institutions du monde et on a beaucoup de travail. Je me sens prête à lancer Madame Ngozi à son arrivée tôt au siège de l'Organisation mondiale du commerce sur les berges du lac Léman. La première femme et première africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce n'a pas perdu une minute et a inauguré en début de matinée une sculpture sur glace représentant des poissons installés par les ONG en compagnie de l'ambassadeur colombien Santiago Wills, président des négociations sur les subventions à la pêche qui sont au point mort. Des émeutes ont éclaté dimanche soir dans plusieurs quartiers de Ouargla dans le sud algérien après la condamnation à une lourde peine de prison des militants du mouvement de protestation populaire en Algérie accusés d'apologie du terrorisme. Des manifestants auraient bloqué plusieurs axes routiers et fait brûler des pneus après que le tribunal criminel local est condamné à meurtre. Grache, un blogueur, à 7 années de prison ferme. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait des jeunes lancer des pierres en direction des policiers au milieu de gaz lacrymogènes. Des appels au calme ont été lancés sur ces mêmes réseaux et la situation restait tendue en fin de soirée. Dans une autre vidéo également diffusée sur les médias sociaux, la maire d'Ameur, Grache, implore le président algérien Abdelmajid Tebboune de libérer son fils.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur la santé avec Donatien Niembobala.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine sur la santé concerne la célébration dimanche 28 février, la Journée internationale des maladies rares. Cette journée est annuellement organisée le dernier jour du mois de février dans plus de 50 pays. À cette occasion, les filières de santé maladies rares s'associent pour aller à la rencontre du grand public en organisant des actions de sensibilisation. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention du grand public et des décideurs sur les maladies rares et leur impact sur la vie des personnes concernées. La vie avec une maladie rare relève très souvent du parcours du combattant. Aux très nombreuses démarches administratives propres à la vie avec une maladie chronique viennent s'ajouter les déplacements pour consulter des spécialistes, les explications face à l'incompréhension d'une maladie inconnue, même de certains médecins, le bouleversement de la vie professionnelle et familiale, l'isolement, le regard des autres. La moitié des malades ne bénéficient pas d'un diagnostic clair et un quart d'entre eux attendent au moins 5 ans pour obtenir un diagnostic après l'apparition des premiers symptômes. L'échange d'informations, de données et d'échantillons à l'échelle mondiale est freiné par l'absence de classification complète de maladies rares, de mandats types et d'ontologies communes. Certains problèmes fondamentaux relèvent du manque constant d'investissement consacré à la recherche sur les maladies rares et à leur traitement. Le concept de maladie rare repose sur la définition épidémiologique statistique de prévalence donnée par l'Organisation mondiale de la santé en 1966. La prévalence d'une maladie dépend du nombre de cas dans une population donnée, sans distinction entre cas nouveaux et cas anciens. L'incidence d'une maladie concerne quant à elle le nombre de cas de maladies qui émergent de personnes qui sont tombées malades pendant une période donnée dans une population donnée. Exprimée par an, la notion d'incidence ne fait intervenir que les nouveaux cas de l'année, alors que celle des prévalences fait intervenir les nouveaux et les anciens cas dans la population. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une maladie est dite rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000 dans la population générale. Plus de 7000 maladies rares sont identifiées dans le monde, plus de 80% d'origine génétique. Individuellement, chaque maladie rare représente peu de personnes et de ce fait, elles sont méconnues et ne bénéficient que de peu d'intérêt pendant de nombreuses années, mais collectivement, 8 à 10% de la population mondiale est touchée par ces maladies rares. On assimile souvent le terme de maladie rare à celui de maladie orpheline. Ce terme fait référence au manque d'intérêt qu'elles ont longtemps suscité, qu'il n'y a pas de traitement ou que les connaissances de leurs causes restent non connues. Ainsi, si malheureusement la plupart des maladies rares sont orphelines, toutes les maladies orphelines ne sont pas rares, comme le souligne un exemple de trisomie 21. Actuellement, d'importants travaux de recherche sont consacrés aux maladies rares. De même, l'industrie pharmaceutique s'intéresse de près au développement de thérapies innovantes les concernant, comme les thérapies du gène, les thérapies géniques ciblées, les thérapies cellulaires ou le développement de molécules ciblant de près les causes identifiées. L'avancée de connaissances a progressé très vite ces dernières années dans le thème de maladies rares et on peut donc sérieusement penser que très prochainement elles ne seront plus orphelines. Les maladies rares souffrent d'un déficit de connaissances médicales et scientifiques et ne sont apparues que récemment dans les politiques de recherche et de santé publique. Pour la plupart d'entre elles, il n'existe pas de traitement curatif, mais des soins appropriés peuvent améliorer la qualité de vie et prolonger la durée de vie. Des progrès spectaculaires ont déjà été accomplis pour certaines maladies, montrant bien qu'il ne faut pas baisser le bras, mais au contraire, poursuivre et intensifier l'effort de recherche et de solidarité sociale. Les personnes atteintes par ces maladies rencontrent toutes les difficultés similaires dans leur parcours vers un diagnostic pour obtenir de l'information et pour être orientées vers les professionnels compétents. L'accès à des soins de qualité, la prise en charge globale, sociale et médicale de la maladie, la coordination des soins hospitaliers et de ville, l'autonomie et l'insertion sociale, professionnelle et citoyenne posent également problème. Les personnes atteintes de maladies rares sont plus vulnérables sur les plans psychologiques, social, économique et culturel. Ces difficultés peuvent être réduites par une politique adaptée.
Françoise Niamien présente la rubrique sur la technologie.
Commençons notre rubrique sur la technologie par l'Angola. Ce pays pourra compter sur la télévision numérique terrestre jusqu'en 2023. C'est ce qu'a annoncé le 27 février dernier à Bengo le ministre angolais des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication sociale, Manuel Omem. Lors d'une visite de travail à Bengo, M. Omem a indiqué que tout dépendait du travail d'articulation réalisé par les partenaires du projet. À ce propos, il a mentionné que l'Angola avait adopté la norme nipo-brésilienne dans le cadre du processus de modernisation du programme de migration numérique et qu'il attendait un financement. Les investissements sont importants, mais malgré cela, tous les efforts sont faits pour que, dès que possible, l'Angola puisse être encadré dans ce qui est le fonctionnement normal des nouvelles normes de télévision numérique, a-t-il déclaré. Quant à la Radio Nationale d'Angola, M. Omem a indiqué qu'un programme de modernisation du réseau d'émetteurs était en cours pour améliorer la qualité du signal qui couvre toute l'extension de la province, mais avec quelques difficultés. Au Nigeria, la nouvelle méthode appelée test urinaire du paludisme permet d'effectuer le dépistage du paludisme avec un simple bâtonnet et de l'urine. Le résultat de l'analyse est connu en moins de 25 minutes. Cette nouvelle méthode a été développée par Dr. Eddy Agbo, fondateur de l'entreprise Biotechnologie Fiodor. Il aura fallu à l'équipe du biochimiste 8 ans de recherche et de développement pour mettre au point ce test dont la marge d'erreur est presque inexistante car le dispositif ne réagit qu'à la totalité des parasites causant le paludisme. L'urine est un échantillon acide. Habituellement, lorsqu'une protéine est présente dans un environnement acide, elle se dénoue, elle devient difficile à détecter par l'approche classique. Nous avons donc dû réorganiser l'outil de manière à être en mesure de l'extraire, même lorsqu'elle est encore dans cet état non conventionnel, a expliqué Dr. Agbo. Selon l'équipe de biotechnologie Fiodor, avec cette méthode, les malades n'auront plus besoin de se faire piquer et attendre des jours avant de connaître les résultats de leurs analyses. Ils pourront démarrer leur traitement le plus tôt possible et éviter les risques de complications qui entraînent l'insuffisance rénale, l'œdème pulmonaire, l'anémie aplastique, voire le décès du patient. Le test urinaire du paludisme fait partie des 10 inventions africaines qui avaient été retenues pour la finale du prix de l'innovation pour l'Afrique 2016. Il a également été nominé pour le prix de la Fondation africaine FIA en collaboration avec le gouvernement du Botswana. Le biochimiste s'est à présent lancé dans une autre invention, à savoir le test multiplex qui permet de détecter les causes de la fièvre. Aux États-Unis d'Amérique, les chercheurs de Massachusetts Institute of Technology sont parvenus à créer une lentille qui n'a plus besoin d'être déplacée pour effectuer la mise au point grâce à une métasurface qui change de phase lorsqu'elle est chauffée. Cette avancée permettrait la miniaturisation des appareils photo des smartphones. Habituellement, la lentille doit être déplacée, actionnée pour effectuer la mise au point, ce qui implique une motorisation. Les ingénieurs de Massachusetts Institute of Technology ont créé une lentille avec une couche d'un matériau transparent à changement de phase baptisé GSST. Il est composé de germanium, d'antimoine et de tellure comme des CD réinscriptibles ainsi que de sélénium. Une mise au point utilisant la chaleur pour un changement de phase, le GSST a la particularité de changer de phase pour passer d'un état amorphe à un état cristallin lorsqu'il est chauffé. Les chercheurs ont créé une métasurface d'un micro d'épaisseur sur lequel ils ont gravé différents motifs pour modifier la réfraction de la lumière. Une partie du motif permet la mise au point dans l'état amorphe, tandis qu'une autre partie est utilisée dans la phase cristalline. Les chercheurs ont utilisé un rayon laser infrarouge pour chauffer la lentille sans en affecter la transparence. Le prototype est parvenu à faire la mise au point sur deux objets à des distances différentes. Toutefois, les chercheurs indiquent que leur système pourrait utiliser les états intermédiaires pour une mise au point en continu. Ils évoquent également l'ajout d'un système de chauffage électrique microscopique transparent ouvrant la voie à l'intégration de la lentille dans la plupart des appareils photo.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.